Guy de Maupassant et de ces virtuoses qui savent tous les registres. Hier, nous parlions d'une vie, c'est-à-dire de la vie d'une femme qui meurt de son vivant à toute envie. Dans Bel Ami, Maupassant raconte exactement le contraire. Aucun personnage ne ressemble moins à la petite Jeanne sans amant d'une vie que Georges Duroy, surnommé Bel Ami par celle, par la fille de sa première maîtresse, et qui doit, Georges Duroy, l'essentiel de son succès, de son ascension sociale, aux maîtresses justement qu'il se choisit. Tout le monde y passe dans Bel Ami, de la prostituée à la fille industrielle, en passant par la demi-mondaine, la pygmalionne et la femme mûre dont il réveille les sens. Aucune femme ne résiste à Bel Ami et par là même aucun succès ne lui échappe. Bonsoir Noël Benhamou.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur France Culture. Alors vous enseignez la littérature en lycée, vous êtes docteur ès lettres et webmestre hein, du site, un site remarquable consacré à Maupassant. Et c'est avec vous qu'on va parler ce soir de Bel Ami, autrement appelé Georges Duroy. Alors on va en parler, notamment pour corriger peut-être l'idée reçue qui vient du fait qu'on l'a trop lu, probablement au collège, et qu'on en garde un mauvais souvenir, ou alors le souvenir d'un écrivain peut-être un peu simple, quand on parle de Maupassant, et en particulier de ce livre-là, alors que c'est remarquable. Commençons, si vous en êtes d'accord, une fois de plus, par marquer à la fois la filiation et la différence entre Flaubert et Maupassant. Autant Jeanne, la petite Jeanne d'une vie, est moins énergique que Madame Bovary parce qu'à la différence d'Emma, elle n'a pas lu Paul et Virginie et par conséquent ne prend pas d'amant. Autant semble-t-il, Georges Duroy, le héros de Bel Ami, lui, est beaucoup plus séduisant que le médiocre Rodolphe qu'Emma Bovary se cherche comme amant. Est-ce qu'on peut tirer une loi générale de ça et finalement aller vers l'idée que, chez Maupassant, les femmes ont encore moins d'énergie qu'elles en ont chez Flaubert, elles sont peut-être encore davantage les victimes de l'existence et de la vie, alors que les hommes, eux, sont capables d'un véritable pouvoir de séduction que Flaubert, en général, aurait tendance à tourner en dérision, Noël Benhamou.
Alors, il me semble déjà qu'il faudrait corriger peut-être...
Allez-y, corriger.
corriger le fait que Maupassant, en fait, ait été influencé autant par Flaubert qu'on a pu le dire, puisque Bel Ami me semble son roman le plus abouti, son chef-d'œuvre, et surtout un roman qui... est d'une inspiration propre, sans réelle référence à Gustave Flaubert, qui bien sûr a été son maître en écriture, mais qui, je dirais, heureusement, est mort en 1880, car Maupassant n'aurait pas fait la carrière littéraire qu'il a eue avec son propre style. Flaubert n'aurait pas accepté que Maupassant devienne journaliste, notamment. Et c'est quelqu'un qui devait travailler pour vivre et qui a emprunté cette voie, le journalisme, qui bien sûr nourrira l'œuvre Bel Ami.
Alors, c'est vrai, pardonnez-moi, hein, il faut rappeler que Flaubert avait le plus grand mépris pour le métier de journaliste, que Maupassant, d'ailleurs, a repris à son compte à plusieurs reprises. Mais en même temps, c'est vrai que Maupassant, pour vivre, a dû exercer cette fonction. Cela dit quand même une chose. Flaubert disait ceci dans une lettre à Maupassant, « L'honneur déshonore, les titres dégradent et la fonction abrutit ». Écrivait ça sur les murs. Phrase que Maupassant reprenait lui-même à son compte. Là, il fait le roman d'un ambitieux, dont il tourne également en dérision l'ambition, même s'il réussit.
Bel Ami n'est pas un ambitieux, c'est un arriviste. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour réussir. L'ambitieux se donne les moyens, mais reste honnête. Bel Ami, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui souhaite réellement arriver, quels que soient les moyens, et de façon totalement amorale.
De façon totalement amorale, c'est-à-dire en séduisant les femmes.
En séduisant les femmes, en imitant les gens qui sont autour de lui, en essayant d'amasser de l'argent. D'ailleurs, c'est le bruit de l'argent qu'on entend dans tout le roman. Et de parvenir à cette réussite sociale. Et finalement, vous parliez de la séduction de Georges Duroy, qui est totalement l'inverse de Jeanne. Jeanne est falote.
Jeanne, c'est l'héroïne d'une vie.
Bien sûr, subit les événements. Jeanne, dans le roman, on la voit sur 30 ans, en fait, hein, de vie. Bel Ami, c'est quelqu'un qui, d'abord, n'est pas tout à fait un homme, c'est un homme-fille. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a toutes les caractéristiques, selon l'écrivain, d'une prostituée. C'est-à-dire qu'il utilise les mêmes moyens. On le voit arriver de façon fulgurante grâce à son corps et grâce à la façon qu'il a de prostituer son esprit, sa plume aussi, dans le journal ou en société.
Alors il y a une scène très étonnante d'ailleurs où Bellamy, je cite de mémoire, hein, descend l'escalier de chez lui, puis tout à coup il voit face à lui un personnage magnifique, un homme qui porte beau, qui a belle allure, et à une fraction de seconde il se demande qui c'est, avant de s'apercevoir que c'est son propre reflet.
Oui, il ne se reconnaît pas, et l'épisode du miroir apparaît plusieurs fois, au moins trois fois dans l'œuvre.
Oui, quand il marche avec sa femme, le long d'un bec de gaz,
Ils ne se reconnaissent pas tous les deux en fait.
Oui, ils disent voilà des millionnaires qui
passent. Ce sont des fantômes presque aussi. Donc l'épisode du miroir, c'est véritablement très important puisqu'on voit que le personnage évolue, ne se reconnaît pas, il ne reconnaît pas non plus sa voix en société lorsqu'il s'exprime la première fois lors du repas en compagnie donc de son ancien camarade
Forestier
bien sûr, ouais. Mais aussi au milieu de personnages très importants, et lui discute avec la petite Laurine.
Alors il faut resituer les personnages rapidement. La petite Laurine dont vous parlez est la fille de sa première maîtresse, Clotilde Marelle. Laurine est une gamine qui joue finalement un rôle très important dans ce livre, car elle est, très bizarrement, c'est un enfant qui refuse de se laisser embrasser par les hommes. Et quand elle voit Georges Duroy, elle accepte un baiser de lui. Donc elle est immédiatement séduite, ce qui évidemment attire l'attention de sa maman. Et puis à un moment, elle laisse Duroy jouer avec elle, alors que cet enfant est d'un sérieux absolu. Et à ce moment-là, Clotilde Marelle dit « Mais vous êtes un ensorceleur, monsieur. » Et enfin, c'est la petite Laurine qui baptise Duroy, qui l'appelle Belle Amie. C'est à elle qu'il doit de s'appeler comme ça.
Et c'est une trouvaille vraiment intéressante de la part de Maupassant, car cet enfant spontané a tout de suite trouvé un surnom qui correspond vraiment au personnage. Un surnom que le lecteur peut entendre à différents niveaux, bien sûr, que la petite fille ne saisit peut-être pas, mais dont elle a conscience. C'est-à-dire ce charme qui agit sur les différents personnages, aussi bien féminins que masculins, puisque cet homme-fille réussit aussi un petit peu comme Don Juan, dans le Don Juan de Molière, à séduire par sa prestance, par sa faconde aussi. Et donc, le fait que Laurine, que l'enfant, dans sa spontanéité, sans perversité en fait, trouve ce surnom est véritablement bien trouvé par l'auteur. Et aussi, le fait que Georges Duroy est attiré par cet enfant a véritablement un sentiment presque paternel vis-à-vis de cet enfant.
Me permettez-vous de vous déposer un baiser sur votre front, mademoiselle,
voilà.
Il lui dit au début. Oui.
Et cette petite fille, au contact de Belle Amie, va un petit peu singer aussi les grandes personnes qui sont autour d'elle. Et puis, Belle Amie, c'est aussi un peu le substitut de père, puisque le père n'est pas présent dans sa vie. Il est souvent absent, et dans la vie, bien sûr, de sa mère, qui prend des amants. Et cette petite fille, tout au long du roman, on va la voir évoluer aussi comme accomplissant une sorte d'apprentissage presque amoureux, puisqu'elle singe les grandes personnes autour d'elle. Elle a aussi ses petites colères.
Et les femmes séduites et jalouses,
voilà,
et déçues aussi.
Elle
par
est déçue. Il y a une réelle analyse très fine, en fait, du personnage de l'enfant. Et on oublie peut-être trop que Maupassant adorait les enfants. Si on a beaucoup dit qu'il haïssait les femmes enceintes, il adorait les enfants. Et en 1885, il est déjà lui-même le père de deux enfants, l'un né en 1883 et l'un né en 1884. Donc la dernière étant une fille, c'est vrai, et puis il adorait aussi ensuite sa nièce. Donc il y a un réel talent d'observateur et de saisie de la psychologie enfantine, en fait.
Et dans le mirage confus où s'égaraient ses espérances de grandeur, de succès, de renommée, de fortune et d'amour, il aperçut tout à coup, pareil à ces guirlandes de figurantes qui se déroulent dans le ciel des apothéoses, une procession de femmes élégantes, riches, puissantes, qui passaient en souriant pour disparaître l'une après l'autre au fond du nuage doré de ses rêves. Je vous propose d'entendre, Noël Benamou, la toute première page de Belle Amie, où, d'une certaine manière, tout est déjà un peu inscrit.
J'ai dit la rubrique des scandales mondains. Les scandales mondains. Ça vous dit ?
Monsieur, je ne sais pas
comment ça se fabrique ? Dit rondement. Vous apprendrez à me connaître, je suis un homme rond. On récolte les indiscrétions, les rumeurs. On cultive ce qui touche à la décadence des mœurs, à l'affadissement des caractères, à l'effondrement du patriotisme, en un mot, à l'anémie de l'honneur français. C'est ça qui fait vendre un journal. Moi, si ma femme m'entendait, elle qui gobe tout. Elle vous a la bonne, Madame Walter.
Alors ça n'est pas la première page de Bel Ami. C'est une pièce de Pierre Laville adaptée du roman Bel Ami, mise en scène par Didier Long en 97 au Théâtre Antoine, avec Pierre Cassignard dans le rôle de Bel Ami et Alexis Nidzer dans le rôle de Monsieur Walter, qui est le patron de la Vie française, que Maupassant, dont Maupassant devient assez vite un des rédacteurs de pointe. Non, en revanche, on va entendre maintenant, justement, la première page de Bel Ami.
Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire. Un de ces regards de joli garçon qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui. Trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux, et vêtue toujours d'une robe de travers, et deux bourgeoises, avec leur mari, habitué de cette gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore 2 collations au pain et au saucisson, plus 2 bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits. Et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette.
Tout est là, hein, Noël Benamou.
Oui, tout est là.
Tout est là, hein, son regard d'épervier et les femmes qui le regardent immédiatement, tout de suite.
Toutes classes sociales confondues, tous âges confondus également. On le voit descendre cette rue Notre-Dame-de-Lorette. Qui est en fait, qui mène au Grand Boulevard et aux Folies Bergères, exactement comme le ferait une fille des rues, une pierreuse, une tapineuse. Et c'est ce qui est très intéressant en fait.
Une question qui m'a toujours frappé dans ce texte. Les femmes avaient levé la tête vers lui, 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers. Comment se fait-il que le chapeau soit toujours poussiéreux et qu'elle soit vêtue toujours d'une robe de travers, cette femme qu'on voit pour la première et la dernière fois dans ce roman?
En fait, c'est presque un type littéraire. Je pense que la satire de Maupassant s'exerce aussi à l'endroit de cette femme à ce moment.
Alors là, on est au début du roman. Bel Ami arpente ce boulevard, maudit ceux qui sont riches et qui mangent à leur faim. Et puis il croise, le hasard met sur sa route Charles Forestier, qu'il avait rencontré en Algérie, et qui le fait entrer à la Vie française. Et là, il découvre le monde du journalisme que Maupassant connaît bien, donc Noël Benamou.
Oui, Maupassant connaît bien ce monde du journalisme. Il est parti comme reporter du Gaulois, donc en Algérie. Et puis, il collabore également au Gil Blas. Et on a pu souvent dire que La Vie française était une transposition du journal d'Arthur Meyer. Donc, il connaît bien les rouages de l'intérieur, du journalisme, de la presse. La presse qui a une importante capitale dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Et donc, il va pouvoir en faire une satire féroce, satire qui va bien sûr être mal vue par ses confrères lorsqu'ils vont découvrir le roman.
Quand il croise Forestier, Duroy, Forestier lui dit « Si on parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est ?»« Oui, à peu près », répond Duroy. « Bon, personne n'en sait davantage, à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaire. Voilà pour les pions, c'est-à-dire les universitaires, dans l'esprit de Maupassant. Hein. Ça n'est pas difficile de passer pour fort, va, le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance. » On manœuvre, on esquive la difficulté, on tourne l'obstacle et on colle les autres au moyen d'un dictionnaire. Tous les hommes sont bêtes comme des oies et ignorants comme des carpes.
Alors le journalisme, c'est vrai que c'est au centre du roman. C'est véritablement le roman de mœurs, le roman de mœurs parisienne, où la presse est particulièrement importante. Donc on voit que Georges Duroy va franchir toutes les étapes et va occuper tous les postes, en fait, dans ce journal. Il va d'abord avoir quelques articles à écrire, qui d'ailleurs il ne sait pas écrire. Donc c'est Madeleine Forestier qui va les lui écrire à sa place, comme elle le fait pour Charles, son mari. Et puis il va gravir les différents échelons en devenant écotier. Et puis, bien sûr, avoir une position beaucoup plus enviable dans la vie française. Donc tout cela en ne sachant pas ce qu'est le métier d'écrire au début.
Oui, c'est fantastique parce qu'on lui demande d'écrire un article sur l'Algérie. Et il commence, il cherche ses mots. Alors il prend une feuille blanche et puis il doit écrire ses souvenirs parce qu'il a été en Algérie et ça plaît au patron. Et la seule phrase qu'il arrive à écrire, c'est « Alger est une ville toute blanche ». Et puis alors après un grand effort, il ajouta « Elle est habitée en partie par des Arabes oui. ». Voilà pour ses talents de journaliste.
Effectivement,
si vous voulez, c'est le début.
C'est un petit peu léger pour faire une chronique
court,
à sensation,
voilà.
Effectivement. Alors, il faut dire que Georges Duroy n'appartient pas à un milieu intellectuel. C'est un fils de paysan normand. Ses parents sont cabartiers à Canteleu. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas eu son baccalauréat. Malgré tous les efforts de ses parents qui se sont saignés vraiment aux quatre veines pour pouvoir lui payer des études, pour en faire un monsieur, c'est ce qu'il souhaitait faire de Georges. Et donc, il a effectivement énormément de mal. C'est quelqu'un, Georges Duroy, qui agit, qui est dans l'action, et non pas dans ce qui pourrait être la méditation ou l'écriture. Donc, ça lui est très difficile de pouvoir mettre par écrit... En fait, c'est ce qu'il a vécu, ses souvenirs, d'autant plus que ses souvenirs, il faut les enjoliver, puisqu'on sait qu'il a participé à des razzias.
Des razzias, qu'il a tué des Arabes, et que ça le fait bien rire d'ailleurs quand il s'en souvient.
Oui, ça le fait beaucoup rire. Et puis, lorsqu'on le découvre au début du roman, il est à la frange de devenir un voyou, de devenir une crapule. Et d'ailleurs, c'est le terme qu'emploie Maupassant dans sa réponse aux critiques.
Alors, quand il rencontre Madeleine Forestier, vous avez parlé de Madeleine Forestier, il commence par la rencontrer, elle l'aide à écrire son premier article, c'est la femme de Charles Forestier. Puis Charles Forestier va mourir, on va voir dans quel terme, de quelle façon. C'est la femme de Charles Forestier, et elle, c'est une sorte de Pygmalion, finalement, qui écrit son article avant de devenir elle-même la femme de Duroy. Et alors, vous avez parlé de Canteleu tout à l'heure, drôle d'endroit, Canteleu, très important d'ailleurs pour Flaubert comme pour Maupassant, puisque c'est là que Flaubert est mort, c'est là que Duroy est né. C'est quand même un lien entre les deux, qu'on le veuille ou non, Noël Benhamou. Alors, Canteleu...
C'est anecdotique,
sauf que quand il emmène Madeleine Forestier à Canteleu voir ses parents, cet homme qui est devenu un monsieur leur ramène une femme qui, aux yeux de la mère, sent le musc.
Bien sûr.
Et ça, c'est pas possible. Et elle, de son côté, Madeleine Forestier, elle aime pas Canteleu, elle aime pas la fin, le « e ». Donc elle met Cantel, et ça devient Duroy de Cantel.
Oui, lors d'un passage célèbre où l'on voit véritablement la fabrication d'un nom, fabrication du nom du personnage et de son épouse, parce qu'elle aimerait bien avoir une particule nobiliaire. Donc, elle, avant de se marier, elle essaie de trouver, de faire des combinaisons de mots, d'associations. Et puis, derrière cela, il y a également tout le travail de Maupassant qui forge ces noms. Tous les noms des personnages ont bien sûr une signification. C'est Saint-Potin, dans le roman, c'est Boisrenard, c'est Rival.
La Roche-Mathieu, le futur ministre des Affaires étrangères.
Qui est presque un fesse-Mathieu, on va dire. Et puis, toute cette constellation de personnages, quelles que soient ses œuvres, qui ont tous des noms vraiment signifiants.
Ce qui est intéressant sur la personnalité de Duroy et son caractère, c'est que cet homme, son regard d'épervier, cette prostituée dont vous parlez,
oui,
cet homme qui fait le tapin, le nom du boulevard, qui recherche ses proies et la bonne fortune, eh bien, il est par ailleurs assez lâche et assez veule. Voici ce qui lui arrive quand il sort avec sa première maîtresse dans un endroit où il avait été juste avant avec une prostituée, laquelle s'était un peu éprise de lui et cherchait sa complicité, tel est pris qu'il croyait prendre.
Il y en a une grosse brune qui nous regarde tout le temps. J'ai cru tout à l'heure qu'elle allait nous parler. L'as-tu vue ? Non, tu dois te tromper. Mais il l'avait aperçue depuis longtemps déjà. C'était Rachel qui rôdait autour d'eux avec une colère dans les yeux et des mots violents sur les lèvres. Duroy l'avait frôlée tout à l'heure en traversant la foule et elle lui avait dit « Bonjour », tout bas, avec un clignement d'œil qui signifiait « Je comprends ». mais il n'avait point répondu à cette gentillesse, dans la crainte d'être vu par sa maîtresse, et il avait passé froidement, le front haut, la lèvre dédaigneuse. La fille, qu'une jalousie inconsciente aiguillonnait déjà, revint sur ses pas, le frôla de nouveau et prononça d'une voix plus forte « Bonjour, Georges !» Il ne répondit point, affectant un air de mépris qui l'empêchait de se compromettre, même par un mot, avec cette drôlesse. Elle se mit à rire, d'un rire de rage, et dit « Te voilà donc muet ? Madame t'a peut-être mordu la langue ?» Il fit un geste furieux, et d'une voix exaspérée. « Qui est-ce qui vous permet de parler ? Filez ou je vous fais arrêter !» Alors le regard enflammé, la gorge gonflée, elle gueula. « Ah, c'est comme ça ! Va donc, mufle ! Quand on couche avec une femme, on la salue au moins. C'est pas une raison parce que t'es avec une autre pour ne pas me reconnaître aujourd'hui. Si tu m'avais seulement fait un signe quand j'ai passé contre toi tout à l'heure, je t'aurais laissé tranquille. Mais t'as voulu faire le fier. Attends, va. Je vais te servir, moi. Ah, tu me dis seulement pas bonjour quand je te rencontre ?» Elle aurait crié longtemps, mais Madame de Marelle avait ouvert la porte de la loge et se sauvait à travers la foule, cherchant éperdument la sortie. Duroy s'était élancé derrière elle et s'efforçait de la rejoindre. Alors Rachel, les voyant fuir, hurla triomphante. « Arrêtez-la, arrêtez-la, elle m'a volé mon amant !»
Alors c'est très amusant, puisqu'ici on a une véritable scène de vaudeville, et on connaît la passion de Maupassant pour le théâtre. Et donc on voit dans cette scène toute l'inversion des valeurs, c'est-à-dire que Duroy est effectivement lâche, il a été l'amant de Rachel, qui s'en était pris comme qui en a fait son amant de cœur, elle ne le faisait pas payer. Et ici, il se conduit
les
en
bouchard. Les prostituées ont toujours du cœur chez Maupassant. Oui, toujours. De boule de suif à Bel Ami.
Bien sûr.
Les prostituées ont toujours du cœur. Elles sont la vertu.
Oui, effectivement. Elles sont des personnages qui mettent en valeur l'hypocrisie et la fausseté des autres, car ce sont finalement elles qui incarnent les vraies valeurs. Donc on a ici une inversion des valeurs, puisque Rachel ne triche pas. Rachel est spontanée. Elle n'a rien d'hypocrite, au contraire, et elle amuse en plus la galerie.
Et elle aurait été complice d'ailleurs si Duroy lui avait fait un clin d'œil, s'il l'avait reconnue tout simplement,
oui,
s'il l'avait respectée.
Elle se serait contentée de cela, effectivement. C'est le manque de respect et c'est en plus un personnage qui permet de véhiculer l'argot parisien que l'on voit à chaque fois. Et donc elle le traite de dos vert, elle le traite de macro et c'est véritablement une leçon où l'amour-propre de Duroy en prend quand même un petit coup, là.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a, dans Bel Ami, de la même façon que Rachel est capable de sentiments véritables, évidemment, et de sentiments authentiques, puisqu'au fond, elle l'aime bien, Duroy.
Oui.
Elle l'aime beaucoup, c'est son amant de cœur, comme vous l'avez dit. Il y a, dans Bel Ami, également, des percées. Alors, cette fois-ci, la profondeur, chez Maupassant, il y accède par une certaine forme d'obscurité. Quand l'obscurité arrive, quand la nuit tombe, et que des personnages plus tristes, plus mélancoliques, comme Norbert de Varenne, par exemple, se mettent à parler, ou bien quand Forestier lui-même finit par mourir. Forestier a des poumons fragiles,
oui,
et il meurt vraisemblablement de phtisie ou quelque chose
de
phtisie. Et donc, Forestier se met à mourir. Et dans ce roman, enfin, meurt. Et dans ce roman, qui est ce livre de l'ambition, cette façon qu'a Duroy d'être indifférent à la douleur d'autrui, au mal qu'il peut leur faire, est constamment doublé comme un fond sonore et comme un rappel du réel par l'évocation de la mort. On va écouter Forestier à l'article de la mort, justement.
L'idée fixe revenait comme un coup de cloche à propos de tout, reparaissait sans cesse, dans chaque pensée, dans chaque phrase. Madame Forestier ne remuait point, toujours debout, le dos à l'appartement, le visage contre le carreau. Et Forestier se mit à parler d'une voix saccadée, essoufflée, déchirante à entendre. Combien est-ce que j'en verrai encore de couchers de soleil ? 8, 10, 15 ou 20, peut-être 30, pas plus. Vous avez du temps, vous autres. Moi, c'est fini. Et ça continuera, après moi, comme si j'étais là. Il demeura muet quelques minutes, puis reprit. Tout ce que je vois me rappelle que je ne le verrai plus dans quelques jours. C'est horrible. Je ne verrai plus rien. Rien de ce qui existe. Les plus petits objets qu'on manie, les verres, les assiettes, les lits où on se repose si bien, les voitures. C'est bon de se promener en voiture le soir. Comme j'aimais tout ça. Et du roi tout à coup se rappela ce que lui disait Norbert de Varenne quelques semaines auparavant. « Moi maintenant, je vois la mort de si près que j'ai souvent envie d'étendre le bras pour la repousser. Je la découvre partout. Les petites bêtes écrasées sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperçu dans la barbe d'un ami me ravage le cœur et me crie « La voilà !»
Ce qui est étonnant, Noël Benamou, dans Bel Ami, c'est que, à la fois, il y a ces moments où la mort, comme le réel, se rappelle à Duroy et finalement contrarie les desseins de l'arriviste, et en même temps, il en fait une marche de plus, puisque quand Forestier meurt, il épouse sa femme. De la même façon, Norbert de Varenne lui donne ses premières leçons de journalisme avant de lui dire « La mort m'a émietté, la gueuse, etc. » À chaque fois qu'il est question de la mort, qu'il est face au réel, l'ambitieux continue d'avancer. C'est comme s'il sait qu'il va mourir, mais oui. Il n'y croit pas.
Oui, il n'arrive pas véritablement à en prendre conscience, tout simplement parce qu'il est dans l'immédiateté. Ce memento mori que Norbert de Varenne lui présente, en lui expliquant que la vie est fugace, que la soif de possession, que la vanité, que la sexualité, puisqu'il lui dit qu'il sera impuissant bientôt, que la maladie qui attaque le corps, tout cela, même les mises en garde, semble l'inquiéter sur le coup. Et puis passer.
Il lui dit, bigre, vous broyez du noir, cher ami, ce soir.
Oui. Et c'est une façon de se rassurer également pour Duroy. Il trace son chemin, peut-être avec encore plus de frénésie, parce qu'au fond de lui, il sait que ce sera très court. Et la fin du roman, qui était considérée comme l'apothéose du personnage...
Oui, il faut rappeler qu'à la fin du roman, Duroy épouse la fille d'une femme dont il a d'abord été l'amant, donc la fille de Madame Walter.
Donc Suzanne.
Il lui a brisé le cœur, d'ailleurs. Il épouse Suzanne après avoir brisé le cœur de sa mère et qu'il se voit déjà au Palais Bourbon.
Oui, donc on sait très bien que cette apothéose du personnage... qui, donc de gigolo, est presque devenu homme-dieu, de façon ironique, pour Maupassant, est une fin ouverte. Mais ouverte sur quoi? Une ascension, il y aura forcément une chute. Hein, c'est splendeur et misère d'une courtisane, c'est splendeur et misère de Georges Duroy. Car Georges Duroy, c'est une nana, finalement, en frac et chapeau de forme. Donc, il court quand même vers sa perte, car il sera lui aussi dans ce grand tout où tout est remplacé et remplaçable, finalement, remplacé par un autre, par exemple Jean Le Dol, ce petit journaliste qui est en train de former Madeleine, à nouveau.
Donc, Madeleine Forestier qui
voilà,
reprend
donc c'est un éternel recommencement, et c'est pour Maupassant le fait que nous ne sommes rien dans l'univers en fait.
Bel Ami, donc, est un roman clair-obscur. La fin de Bel Ami, d'ailleurs, est touchante aussi dans la mesure où, avec mélancolie et joie et une sorte de frénésie mélancolique, il se souvient des petits cheveux de sa première maîtresse, Clotilde Marel, qui rajuste ses cheveux au sortir du lit. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus.
Beaucoup à dire,
merci Noël Benamou d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes docteur ès lettres, chercheuse associée au CNRS, que vous enseignez la littérature en lycée et que vous êtes webmestre du site consacré à Maupassant, www.maupassantiana.fr, un site remarquable. Je vous invite tous à y aller, les documents y abondent et tout ça est bien organisé, vraiment, allez-y. Parmi les livres que vous avez publiés, on va citer la bibliographie de Maupassant, dirigée par Yvan Leclerc et vous-même, en 3 volumes, qui doit paraître en 2008, donc cette année. Enfin, demain et après-demain, c'est de la philosophie de Maupassant qu'on va parler. On a parlé de la place de la mort dans Bel Ami, de cette façon dont l'ambition était matinée et pondérée aussi par le sentiment d'avoir à mourir. Eh bien, ça fait peut-être de Maupassant un philosophe, peut-être la meilleure version de Schopenhauer, la version littéraire de Schopenhauer. On en parlera demain et après-demain avec Jean Salem, qui est professeur à la Sorbonne, qui a écrit un livre sur la philosophie de Maupassant. À la technique aujourd'hui, c'était Vincent Levotte, à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Venture, Marion Richet, France Culture. Il est 20h.